un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Lorraine Descartes et Pauline Verdusier, qui signent l'épisode que nous vous proposons aujourd'hui, appartiennent à un collectif de femmes journalistes et féministes qui s'appelle les Journalopes. Elles ont travaillé sur l'enquête que vous allez entendre pendant pratiquement un an. Depuis ce jour, au printemps dernier, où elles sont tombées sur quelques lignes dans la presse locale, ce qu'on appelle un fait divers. Il leur a semblé néanmoins mériter qu'on le déplie, qu'on comprenne comment les événements ont pu s'enchaîner de cette manière et pourquoi, quelles erreurs ont été commises et par qui, et qu'on réfléchisse à la façon dont cette tragédie aurait pu être évitée. Un an pour tenter de comprendre comment une jeune fille comme Alaïs, grandie dans une famille moyenne, ni riche ni pauvre, dans un quartier qui n'est pas pire qu'un autre, a pu se retrouver prise dans un engrenage aussi fatal de violence. Attention, cet épisode, que nous jugeons nécessaire, contient néanmoins des scènes de viol, de violence et de meurtre, à ne pas mettre entre toutes les oreilles.
Je suis Stéphanie, je suis la maman d'Alaïs. On habitait en Seine-et-Marne, près de Melun. J'ai rencontré son papa, on était amoureux. Et puis, du coup, Alaïs est arrivé comme ça. C'était pas spécialement prévu. Mais on l'a accueilli. C'était magique. Et puis, on l'a chéri. On lui a donné beaucoup d'amour. Elle a grandi. Une gamine qui s'épanouissait plutôt bien. Assez joyeuse. Qui avait son caractère. Un caractère bien fort, d'ailleurs, bien marqué. Et puis après, on a eu des soucis avec mon ex-conjoint et on s'est séparés. Du coup, je me suis séparée du papa d'Alaïs après la naissance de ma deuxième. Et puis voilà, le temps passe. Alaïs était curieuse, envie de vite grandir. Très sociable, très joviale, très souriante. Puis elle avait tout un cercle d'amis autour d'elle, des copines. Et puis au collège, elle s'y est adaptée. Et puis elle voulait être populaire. Elle voulait être un peu aimée de tout le monde. Elle avait ce besoin de sortir, ce besoin de s'émanciper. J'ai envie d'être comme les grands, quoi.
Bonjour, je m'appelle Alaïs et j'ai 13 ans. Je fais la vidéo, je suis dans ma chambre, voilà. Quand je serai plus grande, j'aimerais m'orienter vers le métier de coiffeuse, voilà. J'aimerais bien faire des coiffures, voilà. Et comme je viens de débuter, j'aimerais bien que vous me donniez des petites astuces pour faire bien mes vidéos, voilà. Donc merci, salut.
Je m'appelle Dimrago et je suis la sœur d'Alaïs. On avait 3 ans d'écart. Je suis née en 2004, elle est née en 2001. On avait le même père et la même mère. Et après, quand j'avais à peu près 6 ans, notre beau-père, Cyril, est arrivé avec son fils à lui, Nolan. Et ensemble, ma mère et mon beau-père ont eu 2 enfants. Un garçon en 2011, Maël, et une fille en 2014, Lily. Je sais que Alaïs, elle aimait bien dessiner. Elle avait beaucoup de motivation, elle faisait de la natation, elle a fait des compétitions, elle s'en sortait bien. Elle a eu quelques difficultés à l'école, mais elle s'est pas laissée décourager. De ce que je me rappelle, c'était une grande sœur, un peu chiante, parce que forcément les grandes sœurs sont comme ça, mais avant que son viol n'arrive, elle était pleine de vie en fait.
Le 16 septembre 2014, Alaïs a subi une agression de viol par un jeune du collège qui lui avait proposé de la protéger d'un autre garçon. Parce qu'elle avait reçu une claque d'un garçon. Et lui, il lui a proposé de la protéger de ce garçon pour qu'il ne recommence pas. Donc du coup, ils ont sympathisé. Et puis, il a voulu sortir avec elle. Elle m'en avait parlé. J'ai dit, c'est pas bon. Et je le sentais pas. Et donc, le 16 septembre, elle devait avoir cours de natation. Elle est sortie du collège, ils se sont donné rendez-vous à proximité du collège. Il y avait beaucoup de zones boisées. Elle lui a expliqué que ben, qu'elle voulait pas être avec lui. Et lui, en fait, il a interprété, en gros, il s'était mis en accord, donc qu'il devait se passer quelque chose entre eux. Sauf qu'elle a dit non, qu'elle ne voulait pas, et lui, il ne l'a pas entendu. Et du coup, il a abusé d'elle, quoi. Voilà. Quand ça s'est passé, elle sortait du collège, elle allait directement à la piscine, comme d'habitude. Et en fait, du coup, elle va devant la piscine et elle se confie à une jeune fille qui prévient sa maman. Sa maman est venue chercher Alaïs et l'emmener directement au commissariat. Pourquoi on m'a pas prévenue tout de suite? C'est qu'Alaïs ne voulait pas que je sois prévenue. Et donc, quand elle est arrivée, j'ai senti qu'on avait basculé dans quelque chose qui allait à tout jamais changer notre vie. C'est-à-dire que déjà, je ne reconnaissais plus ma fille qui ne voulait plus que je la touche. Que je l'appelle ma puce, parce que je l'appelais toujours ma puce, et que j'ai compris bien plus tard que c'est comme ça qu'il l'appelait quand il abusait d'elle. Et après, il y a eu un enchaînement de choses parce que les procédures sont longues. Donc il y a eu des expertises, il y a eu confrontation, il y a eu beaucoup de choses qui ont été assez remuantes et qui ont duré dans le temps. Et à un moment donné, Alaïs était vraiment pas bien et elle se faisait du mal hein, physiquement. Et puis du coup, j'ai appelé les pompiers et elle a été hospitalisée. Et là, elle s'est retrouvée en psychiatrie. Et à partir de là, il y a eu des hospitalisations un peu à répétition. On a reconnu, il y a un psychiatre qui a vraiment reconnu qu'elle était profondément meurtrie. Et pour moi, au moment où on a... où elle a subi ce viol, on lui a retiré son étincelle de vie. C'est comme si son corps était un peu mort, en fait. Et moi, je lui disais, il faut que tu sois forte et tu n'es pas responsable. Et là où c'est compliqué dans ce genre de situation, c'est que elle s'est confiée à des copines et puis ça a fait tout un enchaînement de rumeurs. Et quand elle est retournée à l'école, tout le monde lui a tourné le dos. Et puis la procédure était en cours, donc il y avait toujours cette suspicion d'innocence de ce garçon, qui était très populaire, très drôle, très charismatique, très voilà. Donc c'est comme si des gens ils s'étaient rangés d'un côté. Voilà, c'était des rumeurs et elle se faisait harceler. Puis elle arrivait pas à tenir du coup avec tout ça. J'ai demandé un changement d'établissement. Elle a changé d'établissement. Elle a été dans un établissement un peu plus loin, dans la commune d'à côté. Mais les rumeurs, elles ont suivi en fait.
Des rumeurs comme quoi c'est elle qui le voulait, c'est une menteuse, c'est une salope, c'est une pute. Et ça l'a détruite. On l'a changée de collège, elle est allée sur un collège à Melun. Le collège à Melun a cru qu'elle avait changé de collège parce que c'était quelqu'un qui créait des problèmes, alors que elle subissait vraiment un harcèlement terrible. Du coup, le collège n'a pas été gentil avec elle, ils n'ont pas eu de compassion avec elle, et éventuellement, elle a été détruite, mentalement et physiquement. Elle s'est escarifiée. Et quand ça s'est passé, ma petite sœur Lily venait de naître, quoi. C'était en 2014. Et mes parents étaient dépassés par leur plus vieille enfant qui était détruite et qui n'arrivait plus à vivre. Et un nouveau-né qui venait de commencer à vivre.
La mère d'Alaïs enchaîne les démarches pour trouver une nouvelle école à sa fille. Des éducateurs spécialisés interviennent pour aider l'adolescente. En vain. Alaïs refuse toute forme d'autorité, multiplie les fugues et finit par être déscolarisée.
Après son viol, on n'avait pas vraiment de lien, en fait. Elle s'est renfermée sur elle-même, dans son mal-être, et moi, d'un seul coup, j'ai plus de grande sœur. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais il y a le côté où, effectivement, psychologiquement, le cerveau te fait oublier des choses parce que c'est trop dur à vivre. J'ai un exemple concret de quand mon cerveau m'a dit vraiment « blackout, non, c'est pas possible ». C'était une fois où ma sœur était rentrée d'une fugue, mon père était là, ils essayaient de la convaincre de rester parce qu'elle voulait sortir. Elle supportait plus d'être ici, d'être à l'intérieur. Et donc, elle devait avoir 14 ans, un truc comme ça. Et je sais qu'il y a eu une bagarre, en fait. Ma sœur s'est jetée sur mon père et ils se sont échangés des poings. Elle hurlait, à tel point qu'il y a un des voisins qui est venu en mode « ça va », tellement elle hurlait à la mort. Et donc je me suis recroquevillée contre le mur, les mains contre mes oreilles. Et ensuite, blackout, et je sais que je suis dans ma chambre et j'entends les cris et je pleure. Bah c'est, je crois, à peu près à 16 ans qu'elle a commencé à se prostituer. Peut-être un peu plus jeune, je suis pas sûre, mais... Parce que elle fuguait beaucoup, mais vers effectivement 15 ans, elle était déjà en colocation avec des personnes qu'elle connaissait, elle était très rarement à la maison. Et donc, après reconstitution, c'est ma théorie qu'elle avait déjà dû commencer à se prostituer à cet âge-là. Elle a rencontré quelqu'un qui l'a introduit sur les réseaux à Paris. Et ça s'est fait de fil en aiguille, en fait. Et elle n'était plus à la maison. Elle revenait des fois le soir, mais elle dormait la journée, elle partait la nuit. Je lui avais posé 2-3 fois comment elle se faisait de l'argent. Je savais qu'elle travaillait au black, mais je n'avais pas plus de détails que ça. Et je pense, quelque part, je ne voulais pas savoir. Je savais que c'était un sujet sensible et j'évitais trop d'en discuter avec elle.
Elle me disait qu'elle faisait du babysitting régulièrement. Alors moi, c'est vrai que je n'avais aucune vue sur ce qu'elle faisait. Honnêtement. Et moi, je sais, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de babysitting, donc j'y croyais en plus. Parce qu'elle le disait d'une manière où c'était crédible, en fait. Elle a même dit aux éduques, je veux dire, elle donnait des changes. Après, c'est une période où elle a tellement fugué que moi, je faisais tout pour justement qu'elle reste le plus longtemps à la maison. On n'est pas dans la norme, parce que ça me choque, quand je parle, je me dis, mais à cet âge-là, elle a rien à faire, quoi. Je devrais avoir un contrôle de tout, dans la logique. Mais elle était tellement dans des états de fugue que j'avais peur de la perdre, en fait. Et qu'elle reparte et que je ne la vois plus. Donc, il y a quelque chose qui s'est créé, en fait. Et ça a apaisé tout le monde, on va dire, d'une certaine manière.
Comme n'importe quelle petite sœur ferait avec sa grande sœur. Oui, j'ai fouillé dans sa chambre. Et une fois, par inadvertance, je décale un coussin, je remets un drap, etc. Et je tombe sur une enveloppe avec, je crois, 500 euros en billets. J'avais jamais vu autant d'argent en liquide. Qu'est-ce que ça fait là ? Je la remets à son endroit, comme si j'avais rien vu. Et après coup, je remonte en haut, et ma sœur était dans la maison à ce moment-là. Et ma sœur arrive, et on en discute. Et ma sœur, de manière très inquiète, et un peu agressif, me prend un peu par les épaules et me demande « T'as rien pris ? T'as rien touché ?» Non, j'ai rien pris. Et c'est l'un des plus gros indices qui aurait pu me dire que « Ouais, il y a quelque chose de bizarre. » Mais je voulais pas savoir. Techniquement, la prostitution, c'est un moyen de reprendre contrôle sur son corps, en fait. Parce que tu choisis ce que tu fais ou pas, t'aimes les prix pour ce que tu fais, t'es en contrôle. Et il y a un côté, je reprends ma dignité, je pense. C'est peut-être un peu pour me rassurer que je me dis qu'elle reprenait le contrôle sur son corps, parce que j'ai envie de penser ça. J'ai envie de croire que dans cette situation, elle reprenait les rênes. Elle a fait ce qu'elle pouvait dans la situation où elle était, en fait.
Je pense que c'est lors de ses fugues qu'elle a rencontré des personnes qui l'ont amenée sur des chemins dangereux. Ouais. Et quand moi, je questionnais qui sont ces personnes, et elle me disait, c'est on se comprend, on a les mêmes douleurs. Et elle est considérée comme une deuxième famille, ouais.
Je m'appelle Lola, j'ai 22 ans et j'ai connu Alaïs à Melun. La première fois que je l'ai vue, c'était l'été. J'étais avec d'autres filles et on se livrait à l'activité de prostitution. Et moi, j'avais fait quelqu'un. Et c'est là qu'on me l'a présenté. On m'a dit, c'est Alaïs, nanani. Et elle nous donnait des conseils. Parce qu'elle, elle faisait ça. Et après, on a parlé. Et après, c'est là que je me suis dit, Mais elle est gentille, tout ça et tout. Et on a commencé à traîner ensemble. Mais elle faisait ça pour se payer un truc de coiffure. Elle voulait ouvrir un truc d'esthétique, de coiffure et tout. Et elle avait économisé beaucoup d'argent pour pouvoir s'acheter ça.
Les versions divergent sur la manière dont Alaïs exerçait la prostitution. Selon certaines sources, elle se prostituait en indépendante via des petites annonces sur Internet. Elle s'était pourtant aussi liée à des proxénètes à la tête d'un réseau de traite. Ces hommes séquestraient plusieurs jeunes filles mineures pour les exploiter dans un duplex en bord de Seine, à Melun. Dans ses dépositions à la police, le chef de ce réseau, Quentin R., affirme qu'Alaïs travaillait aussi pour lui. Dans quelle mesure était-elle sous la coupe de ce proxénète ? Ce n'est pas clair. Ce qui est certain, c'est qu'Alaïs s'était liée d'amitié avec les jeunes filles victimes, comme Lola ou encore Jessica.
J'avais 17 ans, là. En fait, on mentait, on disait toujours qu'on avait 25 ou 26 ou des fois même 30 et tout. Des fois, il y a des messieurs, ils venaient, ils étaient surpris de voir une fille un peu plus jeune, mais la plupart, ça ne les dérangeait pas, même ils préféraient même ça. C'est comme si on était sous emprise. C'est comme le syndrome de Stockholm. On a, en fait, après, on s'est attaché à eux. Limite, les filles, elles étaient amoureuses de Quentin. Moi, j'étais amoureuse de l'autre. En fait, même quand les gens ils nous disaient de partir, on n'arrivait pas, on ne voulait plus partir. Il y a une fois où j'ai fait comme si ma grand-mère était malade ou un truc comme ça. J'ai fait ma valise pour partir. À ce moment-là, je me suis dit... Quand je vais franchir le pas de la porte, je vais partir et je vais jamais me retourner. Il m'a dit, je vais te retrouver, toi et ta famille, tout ça. Je vais vous tuer, tout ça et tout. Et j'ai eu peur. La première maltraitance que j'ai vue, c'était... En plus, Alaïs, elle venait de venir avec un ami à lui. Ils étaient trois. Ils sont venus, on a passé une soirée ensemble et tout. La soirée se passait bien. Enfin, personnellement, pour moi, ça se passait pas si bien que ça parce qu'on était mis à l'écart, les filles et les autres, ils étaient tous ensemble, ils rigolaient. Après, ils sont tous partis et Jessica, elle est montée les escaliers et elle était en chemise de nuit. Et là, la fenêtre était ouverte et il lui dit « Pourquoi tu montes les escaliers avec ta truc? On voit tes fesses !» Et là, il lui a mis une première gifle et là, il l'a frappée, coup de poing et tout. Je suis venue, j'étais en train de pleurer parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, mais tu vas la tuer, arrête et tout. Et c'est là qu'il m'a mis un gros coup de au niveau d'ici et tout. Et là, il nous a dit, ce soir, je vais en tuer une et j'ai un sac mortuaire. Et il avait vraiment un sac mortuaire et il nous disait qu'il allait mettre une de nous dans le sac mortuaire pour mettre dans le lac. Il n'y avait que eux qui dormaient la nuit. Nous, les filles, on ne dormait pas. Moi, dans ma tête, je me disais, mais ça se trouve, il va me tuer. Ça se trouve, je ne vais jamais grandir. Et il va me tuer. Je n'aurai pas le temps de voir ma famille, tout ça. Je me disais que peut-être que mes derniers instants, ça sera avec eux et que je ne vais jamais avoir le temps de dire au revoir à ma grand-mère. Et tout. En fait, on pensait qu'on allait mourir, en fait.
Un soir, à la suite d'une explosion de violence, des policiers interviennent dans l'appartement. Les proxénètes décident de fuir pour établir le réseau dans le sud, à Montpellier. Alaïs les accompagne.
En tout cas, dans le sud, c'était la même chose. On faisait pareil. L'argent qui venait pas à nous, on se faisait insulter, on se faisait frapper par les proxénètes. En fait, c'était la même truc. Et Alaïs, elle était de plus en plus oppressante. C'est la vision de Quentin, parce que moi, je ne trouvais pas qu'elle était oppressante. Parce que tout le temps, elle nous disait « Oui, partez, nanani, nana. » Quand elle a vu ce qu'il a fait à Jessica, tout ça et tout, elle a dit « Il va vous tuer, tout ça et tout, qu'il ne faut pas rester et tout, qu'on peut se faire de l'argent toute seule et que tout l'argent qu'on économise, ben, on se prend en appart ou un truc ou qu'on reste ensemble, qu'elle elle a des projets et tout. » Enfin, elle nous incitait en fait à partir soit seule, soit avec elle, mais qu'on ne reste pas avec Quentin. Elle voulait veiller sur nous, tout ça et tout. Et surtout, elle ne voulait pas nous quitter des yeux, en fait. Elle ne voulait pas nous quitter parce qu'en plus, on s'entendait très, très bien. On était vraiment très très proches, toutes les filles, on était vraiment très très proches d'elle. Et Quentin, ça lui plaisait pas du tout. Il était envieux de savoir qu'elle avait de l'argent. En fait, il voulait vraiment qu'elle travaille pour elle et tout, mais elle, c'était pas son truc en fait. Elle comptait arrêter parce que pour elle, elle avait pris assez d'argent pour pouvoir faire ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle comptait vraiment bientôt arrêter et lui, il a tout cassé.
Le rapport d'enquête décrit ce qui ressemble à une expédition punitive. Dans la nuit du 9 au 10 février 2020, Quentin R. se fait conduire en voiture par sa compagne à l'entrée de l'immeuble où Alaïs se prostitue. Il est accompagné d'un autre homme, Driss N. Les deux hommes appellent Alaïs et tentent de se faire passer pour un client. Devant son refus de les faire monter, ils attendent qu'un vrai client se présente pour s'introduire dans l'édifice. Puis ils entrent de force dans l'appartement. Une fois à l'intérieur, Quentin R. reconnaît avoir porté des coups de couteau et des coups de pied sur le corps de la jeune femme. Lorsque j'ai vu dans quel état je l'avais mise, je me suis dit « il faut que je la termine », a-t-il dit aux enquêteurs. Dans ses auditions, il dit avoir agi dans le but de lui soutirer de l'argent. Il a aussi déclaré qu'elle avait décidé de prendre son indépendance, ce qu'il n'avait pas accepté. Il précisait avoir consommé de l'alcool et de la cocaïne dans la journée. Le rapport d'autopsie indique que le décès d'Alaïs résulte d'un état de mort cérébrale provoqué par des coups répétés et violents à la tête. Quentin R., qui avait déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé, est mis en examen pour extorsion avec violence ayant entraîné la mort.
C'est un soir. Ces deux policiers municipaux qui frappent à la porte et qui me demandent d'appeler, je ne connais pas les noms, si c'est un adjutant, un commandant, j'en sais rien, à Montpellier. Il s'est passé quelque chose à votre fille. J'appelle la personne et là j'apprends que ma fille, elle est dans le coma et j'apprends en même temps qu'elle exerçait de la prostitution et qu'on me demande en urgence d'appeler l'hôpital. En 2 secondes 12, en fait, agression, coma, et elle était en situation de prostitution, dans un appartement. J'appelle l'hôpital, et ils me disent, allez, en mort cérébrale, venez. Et voilà, et là j'arrive là-bas, avant le petit matin, je sais pas, on a roulé toute la nuit. Et puis à partir de ce moment-là, ça a été très très long. J'arrivais pas à comprendre, en fait, son cœur battait, elle était sous les machines. Et je comprenais pas qu'elle était partie, en fait. Un peu après, on fonctionne en mode robotique. On est dans la survie, en fait. Et on s'écroule, et puis là, on parle d'enterrement. Donc, il faut faire les démarches pour l'enterrement. Et c'est surréaliste. Tout est surréaliste.
Je suis Nathalie, la tata d'Alaïs. Je suis celle de la famille qui a assisté à la reconstitution. Voilà, sa maman, c'était pas possible pour elle d'y assister. Psychologiquement, évidemment, on peut le comprendre. Donc j'y ai assisté parce que je trouvais que c'était important qu'il y ait un représentant de la famille Alaïs. C'est pas juste un mot. C'est pas juste... voilà, c'est aussi une famille qui l'aimait, qui était là pour elle. Et la reconstitution était à peu près à l'heure où ça avait eu lieu, un an avant, on va dire. Il y avait ses baskets, il y avait un briquet, et il y avait encore toutes les traces de la scène. Rien n'avait été nettoyé. Il y avait le véhicule qui a déposé les agresseurs. Ils ont chacun joué leur rôle, évidemment. Comment ils ont tendu un piège, comment le hasard de la malchance a fait que ils ont pu rentrer dans cet immeuble qui pourtant était sous interphone, et comment ils ont attendu qu'un client sorte, et comment ils se sont engouffrés dans l'appartement, comment ils se sont cachés dans la rue pour faire des faux appels, etc. Donc c'est comme ça que j'ai pu mettre en mots et comprendre tout le processus qui a amené à sa mort. C'est un féminicide. D'ailleurs, la preuve en est.
c'est la destruction de son visage, de son image physique. Tu n'es plus rien, la destruction. Donc je t'annihile, je te possède, je t'annihile et je te détruis. Ça m'a tout de suite fait penser à ces femmes hindoues en Inde, par exemple, à qui on jette de l'acide en plein visage. C'est exactement le même procédé. Derrière, il y avait l'argent et la prostitution, certes, mais il n'y a pas que ça. Quand on lit les dépositions, quand on lit les interrogatoires, on voit qu'il y a, elle échappe, je la détruis. De toute façon, c'est ce qui a été dit par le protagoniste. Je vais la finir. Aujourd'hui, j'arrive à en parler, évidemment. On dit que le temps fait les choses aussi, mais pas que. Et bien sûr, dans mon processus de deuil, le procès en fera partie. On va rendre justice à Laïs. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas possible et il faut pas que ça recommence. Et justice va être rendue, je l'espère, à Laïs et en sa mémoire.
C'était Alaïs, itinéraire d'un féminicide, un reportage de Lorraine Descartes et Pauline Verdusier, réalisé par Alexandra Candy-Longuet. Sachez qu'à la veille de l'ouverture du procès, lundi 25 mars, qui devait juger le meurtrier d'Alaïs et ses co-accusés, Quentin Robert, son proxénète et meurtrier présumé, s'est suicidé en détention. Il risquait une peine à perpétuité. Ses co-accusés, sa compagne et une autre personne ont toutefois été jugés. Verdict aujourd'hui. Merci pour cette émission à Stéphanie, Nathalie, Dim et Lola, ainsi qu'à Valentin Rémy et Nour Mohamedi. Don't tie me down, 'cause I never stay.